je me suis livré à une petite recherche dans le but de savoir combien de fois certains mots étaient utilisés dans la Bible. Je fais rarement cela car, à mes yeux, un tel exercice ne mène pas à grand-chose. Cependant, pour le sermon d'aujourd'hui, il me semblait indiqué de faire une telle recherche. J'ai ainsi appris que le mot « remember », « souviens-toi » ou « remembrance », « souvenir », apparaît plus de 215 fois dans la version King James de la Bible, alors que son antonyme « forget », « oublier » ou « forgot », « avoir oublié », n'y est utilisé que 69 fois. Il est vrai que des variantes de ces mots pourraient encore gonfler ces chiffres. Toujours est-il que des termes comme « se souvenir » et « oublier » sont utilisés près de 300 fois dans les Écritures. Certes, il y a des mots qui sont utilisés bien plus souvent encore, comme le mot « amour » par exemple, mais je pense qu'il y a là un message que Dieu veut nous communiquer. N'oubliez pas. Justement, n'oublions pas que lundi prochain, le 26 décembre 2022, marquera le 30e anniversaire du début de l'Église mondiale de Dieu, la Global Church of God, laquelle continua ensuite sous le nom de l'Église du Dieu vivant, Living Church of God. Cette évolution mérite d'être expliquée afin que nous comprenions pourquoi elle eut lieu. Je veux aujourd'hui parler de tout cela car nous ne devons pas oublier les leçons du passé. Si vous voulez un titre pour ce sermon, c'est tout simplement « Souviens-toi ». N'oublie pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 se trouve un passage très familier pour la plupart d'entre nous et il est bon de nous en souvenir, de ne jamais l'oublier. Après avoir évoqué les pérégrinations d'Israël lors de sa sortie d'Égypte sous la conduite du rocher qui les suivait, Christ, Paul parle de certaines des erreurs qu'Israël a commises. Au verset 11, il est dit, 1 Corinthiens 10 verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oui, elles sont écrites pour que vous et moi nous en souvenions, pour que nous y réfléchissions, pour que nous considérions les erreurs commises par Israël, de peur que nous n'oublions et ne fassions les mêmes choses. Au verset suivant, nous lisons, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » C'est parce que, voyez-vous, tous ces gens avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient vu les miracles que Dieu avait accomplis, des miracles qui, pour la plupart d'entre nous, dépassaient tout ce que nous n'avons jamais vu. Oh, je sais qu'il y a eu des miracles exceptionnels parmi le peuple de Dieu, notamment des guérisons qui ne pouvaient être expliquées autrement que par un miracle. Mais quand vous voyez la mer Rouge s'ouvrir pour que vous puissiez la traverser à sec, c'est tout de même assez spectaculaire. Et cela venait après tous les autres miracles qui avaient eu lieu, des miracles que Dieu avait accomplis pour faire sortir Israël d'Égypte. À nouveau, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Une simple histoire de l'Église montre combien il est important de nous souvenir que littéralement des dizaines de milliers d'individus qui prenaient part à nos services, comme nous le faisons maintenant, ne sont plus parmi nous. Cela dit, et j'aimerais que ce ne soit pas vrai, mais j'ai bien peur que certains de ceux qui sont parmi nous en ce moment même ne resteront pas fidèles jusqu'à la fin. C'est la leçon à tirer du passé. De fait, ce seront souvent des gens auxquels on ne s'attend pas, et ceux qui restent ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. C'est une bataille, c'est une guerre qui se déroule, et il y a un vrai diable ici qui essaie de nous détruire. Lorsque nous rencontrons l'expression « souviens-toi » dans un contexte biblique, quelle est la première chose qui nous vient à l'esprit? Je suppose que pour beaucoup d'entre nous, cela nous fait penser à Exode chapitre 20, verset 8, un passage si bien connu que nous nous contenterons de le citer. Donc, pas besoin de nous y reporter. C'est bien sûr « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Oui, il nous faut nous en souvenir et l'observer, mais ce n'est pas tout. Il nous faut aussi le sanctifier. En effet, c'est une chose de venir aux assemblées le jour du sabbat, c'est une chose de ne pas travailler le jour du sabbat mais c'en est une autre de le sanctifier, de le considérer comme un temps mis à part dans un but très spécial. Effectivement, et laissez-moi insister sur ce point, c'est là une chose sur laquelle nous devrions méditer. Chacun d'entre nous devrait y réfléchir. Oui, qu'est-ce que cela signifie de le sanctifier? Y a-t-il là quelque chose que je pourrais faire différemment? Ou que je devrais faire différemment? Que dois-je faire pour sanctifier ce jour? Bon, j'aborderai ce sujet particulier dans un autre sermon. Pour lors, pensons-y. Il nous faut donc nous souvenir du jour de sabbat et le sanctifier. Notez également cet autre passage qui se trouve dans Deutéronome chapitre 5, un passage où les 10 commandements sont énoncés à nouveau avec quelques changements mineurs, bien que significatifs. Parlant du sabbat, il y est dit, Deutéronome chapitre 5 verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Une des leçons que cela doit nous rappeler, c'est que nous étions jadis des esclaves, nous aussi, tout comme les Israélites l'étaient alors en Égypte. Oui, et c'est là une leçon spirituelle pour vous et pour moi, car, dans le passé, nous étions tous esclaves des choses de ce monde, de nos passions, de nos désirs, de nos émotions et de nos convoitises. Notez comment Romains chapitre 6 nous donne un aperçu de ce qu'est l'esclavage par opposition à la liberté. Romains 6 commence par un passage que nous lisons toujours lorsqu'un individu veut se faire baptiser. Nous en lisons généralement au moins les 7 premiers versets, parfois même plus. Voyons donc Romains chapitre 6 verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est là un énoncé intéressant. En effet, lorsque l'Église universelle, la Worldwide Church of God, s'est fragmentée, beaucoup se sont mis à penser que, vu que nous étions à présent sous la grâce, nous n'avions plus besoin d'observer la loi. Et Paul reconnaissait que les gens comprendraient mal certaines des choses qu'il disait. Et c'est pourquoi il posait de temps en temps des questions du genre « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché? Oui, allons-nous continuer à violer la loi de Dieu? Car le péché est la transgression de la loi, afin que la grâce abonde. » À cela, Paul répond, verset 2, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Puis, à partir du verset 3, il aborde le sujet du baptême, disant, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? » En effet, la cérémonie du baptême est comparable à un enterrement, devant, en fin de compte, nous mener vers un nouveau mode de vie. C'est pourquoi Paul ajoute au verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Comprenez par là qu'il n'est pas à présent libre de péché, il a seulement été libéré de ses péchés antérieurs. Versets 11 et 12, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Autrement dit, ne vous laissez plus dorénavant asservir par le péché. Versets 13 et 14, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » C'est là un verset qui est souvent cité par les antinomiens, ceux qui sont contre la loi, mais ils oublient de lire la suite. Versets 15 à 18, « Quoi donc ? Pécherions-nous, c'est-à-dire allons-nous continuer à enfreindre la loi de Dieu? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance. L'obéissance à qui? L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa loi. à nouveau, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, et nous l'étions tous, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes maintenant devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, à toujours plus d'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Intéressant ce qui est dit ici. L'iniquité menant toujours à plus d'iniquité. Je pense que c'est là quelque chose qui m'avait vraiment frappé alors que je vivais au Canada. Il y avait là un type du nom de Svend Robinson qui siégeait au Parlement. Il ne cachait pas ses tendances homosexuelles. Un jour, il a été pris en photo alors qu'il était en train de voler une bague d'environ 5 000 $. C'était vraisemblablement pour son mari, ou sa femme. Je ne saurais le dire dans son cas. Il va sans dire que cela mit un terme à sa carrière politique, même si la gendarmerie royale du Canada n'a pas voulu l'incriminer outre mesure, lui donnant même la chance de reprendre sa carrière à certains égards, et cela en dépit du fait que l'affaire était devenue publique. Et puis, plus récemment, nous avions cet autre individu qui était chargé de l'élimination des déchets nucléaires pour le compte du gouvernement. Si vous avez vu des photos de lui, elles sont assez choquantes. Elles font penser à un individu trans de quelque sorte. Je ne sais pas exactement s'il s'agissait d'un travesti ou d'un individu trans, mais il avait été surpris en train de voler des bagages à l'aéroport. Et le tout avait été filmé. Ce qu'il faut en retenir, c'est que lorsqu'un individu ne respecte pas la loi de Dieu, pourquoi respecterait-il les lois de l'homme? Évidemment, les deux cas que nous avons cités sortaient de l'ordinaire. Mais, même à une plus petite échelle, lorsqu'on cède à une forme d'iniquité, cela mène souvent à une autre. À nouveau, verset 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclave à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Continuons versets 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous rappelle ici que son peuple avait été esclave au pays d'Égypte et qu'il l'avait délivré de cette condition à la suite d'une série de miracles incroyables et tout cela est rappelé à notre souvenir dans le contexte du commandement à propos du sabbat. Cela dit, pour nous tous, à un degré ou à un autre, c'est aussi un miracle que Dieu ait changé notre esprit pour nous faire prendre conscience de la nature que nous avons, que nous sommes des pécheurs, qu'il est de notre nature de nous livrer au péché, mais que nous devons changer, que nous devons nous repentir de cela, et que, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés. Ceci est un miracle. Il est intéressant de voir comment des gens qui sont parfois très hostiles à Dieu, d'une manière ou d'une autre, finissent par ne plus être hostiles, mais, au contraire, pleinement portés à lui obéir. Ainsi, je me souviens d'un type, il y a de nombreuses années, alors que je travaillais en Louisiane, et il me contait qu'il s'était procuré une de nos brochures. Je crois que c'était les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Et il a dit que cela le faisait penser à une bande dessinée, que cela n'avait aucun sens à ses yeux. Et c'est pourquoi il l'avait mis de côté. Cependant, à peine 6 mois plus tard, l'ayant relu, tout d'un coup, il trouvait que cela faisait du sens. Voyez-vous, c'est que dans l'intervalle, Dieu lui avait ouvert l'esprit. Oui, Dieu, par son Esprit Saint, lui avait accordé de comprendre. Et vous savez, cela arrive assez fréquemment. Je suis sûr que vous, qui êtes ici, vous auriez votre propre histoire à raconter sur la façon dont votre esprit a été ouvert. C'est un peu différent quand on grandit dans l'Église. Mais je me souviens d'un jeune homme qui avait grandi dans l'Église et qui avouait qu'il avait longtemps gardé un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Il a finalement pris conscience qu'il avait en réalité son pied principal dans le monde et qu'il avait juste conservé l'autre dans l'Église au cas où. Ce fut tout un choc pour lui. C'est un vrai miracle quand Dieu nous ouvre l'esprit et qu'il nous rend conscients du fait que nous étions jadis dans le monde, que nous étions alors esclaves du péché et qu'il nous faut en sortir. Sortir d'Égypte, de la servitude spirituelle, sortir de l'esclavage. C'est que les jours des pains sans levain nous enseignent que le péché est une servitude et qu'il n'est pas facile d'en sortir, car le péché est partout autour de nous. Il y a tellement de leçons que nous pouvons apprendre pendant ces jours des pains sans levain. Une partie du problème que nous avons est que nous ne sommes pas toujours conscients du passé. Il est important pour nous de savoir pourquoi nous sommes ici et vers quoi nous nous dirigeons. Pourquoi y a-t-il eu l'Église mondiale de Dieu? Nous venons de visionner une petite partie de l'histoire de l'Église, mais c'était très rapide. Cela ne nous a vraiment donné qu'un bref aperçu de ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'aimerais maintenant aller un peu plus en profondeur et vous exposer pourquoi il y a eu l'Église mondiale de Dieu, puis l'Église du Dieu vivant. Car beaucoup d'entre vous n'étaient pas là quand ces choses sont arrivées. Voyons combien d'entre vous étaient trop jeunes pour vraiment pouvoir comprendre pourquoi Dr. Meredith a dû créer l'Église mondiale de Dieu. C'était il y a 30 ans. Donc, à moins que vous n'ayez à présent 45 ans, auquel cas vous aviez 15 ans à l'époque, vous n'étiez probablement pas intéressé par toutes ces questions de doctrine qui étaient débattues à cette époque-là. Par ailleurs, comme vous n'étiez pas non plus baptisé à ce moment-là, vous avez peut-être été contrarié du fait que vos parents, en quittant l'Église universelle, la Worldwide Church of God, vous privaient de la plupart de vos amis. Vous saviez probablement que quelque chose motivait tout cela, mais dans quelle mesure aviez-vous vraiment compris? Voyons un peu combien d'entre vous ici présents avaient 45 ans ou moins. Levez vos mains et gardez-les en l'air. Bon, je peux voir que vous formez un assez bon groupe. Remontons maintenant encore un peu plus loin dans le temps, jusqu'à l'époque de la mort de M. Armstrong, car c'est peu après que se produisirent les événements qui aboutirent à la raison d'être de l'Église mondiale de Dieu, la Global Church of God. M. Armstrong étant mort le 16 janvier 1986, cela remonte donc presque 37 ans en arrière, à quelques jours près. Ceux qui auraient pu être concernés par cela seraient donc maintenant âgés d'au moins 52 ans. Eh bien, combien d'entre vous ici ont moins que 52 ans? Bon, d'accord. Je ne peux pas tous vous voir, mais c'est manifestement un bon pourcentage d'entre nous. Il est donc important que vous compreniez bien comment nous en sommes arrivés là. Oh, c'est trop facile de dire qu'il y a eu une sorte de perturbation dans l'Église, ou qu'on s'était éloigné des enseignements de l'Église. Mais il est important que nous comprenions vraiment ce qui s'est passé. Monsieur Jonathan McNair et moi en discutions récemment, et il faisait valoir que nous devrions réaliser une production, la mettre sur vidéo et même par écrit, dans le but de faire un retour en arrière et de montrer comment s'était opérée la transition qu'a connue l'Église après la mort de M. Herbert Armstrong. Cela consisterait à exposer la façon dont on s'y est pris pour amener les membres de l'Église à accepter tous ces changements que certains voulaient introduire en matière de doctrine. On voulait nous faire croire qu'il ne s'agissait pas vraiment de changements profonds, tout au plus une vision plus claire. N'empêche que, un ou deux ans plus tard, on avait tout changé, tout en niant d'avoir eu une telle intention dès le début. C'était, aux yeux des experts, un cas flagrant de dissonance cognitive. Il nous disait une chose, alors qu'il faisait quelque chose d'entièrement différent. À cette époque, on nous bombardait avec une série ininterrompue de mensonges. Dieu nous a montré qu'il est bon pour nous de faire un retour en arrière sur notre histoire. Les psaumes chapitre 78, chapitre 105 et chapitre 106 sont de longues chroniques de l'histoire d'Israël qui nous décrivent ce que la nation a connu dans le passé. En fait, la Bible nous relate des événements qui se sont produits avant même l'établissement d'Israël. Des événements comme le déluge, par exemple. Quand on y pense bien, la totalité de la Bible est un livre d'histoire. Certes, une partie de la Bible est aussi prophétique. En quelque sorte, une histoire écrite à l'avance. Le fait est que Dieu veut que nous sachions ce qui s'est produit dans le passé et ce qui va se produire à l'avenir. Actes chapitre 7 parle d'Étienne qui subit un procès. Difficile de savoir s'il s'agissait d'un procès formel ou non, mais on le voit ici confronté à ses accusateurs. Que fait-il alors? Eh bien, dans son plaidoyer pour sa défense, on le voit qu'il remonte dans le temps pour montrer comment Israël avait déjà autrefois assassiné les prophètes et rejeté la vérité de Dieu. Hélas, lorsque son attention se porta vers ses accusateurs, ceux-ci ne tardèrent pas à le lapider. Monsieur Herbert Armstrong avait coutume de revenir périodiquement au tout début, au tout premier chapitre de la Bible, aux deux arbres. Je rencontre assez souvent des gens qui me demandent de leur expliquer de quoi il est question lorsqu'on parle de ces deux arbres. Et je crois qu'il serait indiqué de donner prochainement un sermon à ce sujet. Vous savez, M. Armstrong avait tellement parlé de ces deux arbres qu'après sa mort, personne ne voulait plus en entendre parler. Mais il avait raison, absolument raison d'en parler. Lorsqu'il disait qu'il était persuadé que seulement la moitié d'entre nous en comprenait la signification, il avait raison. Vers la fin de sa vie, je l'ai même une fois entendu dire que, selon lui, seulement 10% d'entre nous le comprenaient vraiment. Il s'est avéré que beaucoup n'avaient pas compris la différence entre ces deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hélas, c'est celui-ci que les gens ont choisi, celui qui conduit à la mort. M. Armstrong nous a également montré dans quelles circonstances Dieu l'avait appelé et dans quelles conditions était alors l'Église, une Église en voie d'extinction. Pour vraiment comprendre la situation dans laquelle se trouve notre monde moderne, je suppose que nous devrions effectivement remonter jusqu'au début des temps, mais contentons-nous de revenir au début des années 1900, entre 1926 et 1927. Je veux maintenant vous lire un extrait d'une déclaration de M. Herbert Armstrong qui figure dans le premier volume de son autobiographie. Nous l'avons en notre bibliothèque. Si quelqu'un souhaitait lire cette autobiographie, je suis sûr qu'il pourra se la faire prêter. Il est vrai que si vous teniez absolument à acquérir votre propre exemplaire de son autobiographie, par exemple sur eBay ou ailleurs, soyez prudent, car cela pourrait vous coûter jusqu'à 224 $ pour en avoir un. Ainsi, à la page 288 de son autobiographie, M. Armstrong nous donne de précieuses informations à propos de sa conversion. Il y mentionne que sa femme a toujours montré un certain intérêt pour la Bible, mais, ajoute-t-il, c'est lorsqu'elle a fait la connaissance d'une certaine Madame Runcorn que son intérêt fut réellement porté à son paroxysme. C'est parce qu'un jour, Madame Runcorn lui avait donné l'occasion de faire une étude vraiment sérieuse de la Bible. Elle avait d'abord demandé à ma femme de lire un certain passage, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, et cela pendant environ une heure. Madame Runcorn n'avait alors émis aucun commentaire, donné aucune explication, apporté aucun argument. Elle avait simplement demandé à ma femme de lire à haute voix une série de passages bibliques. À un moment donné, ma femme s'est exclamée « Pourquoi toutes ces écritures disent-elles que durant toute ma vie, j'ai observé le sabbat le mauvais jour ?» À cela, Madame Runcorn s'est contentée de répondre « Eh bien, est-ce là ce qu'elles font ? Ne me demandez pas si vous vous étiez trompé. Vous savez, vous ne devriez pas croire ce que les gens vous disent, mais seulement ce que Dieu vous dit à travers la Bible. Qu'est-ce qu'il vous dit là ? Qu'est-ce que vous voyez de vos propres yeux ? Mais c'est on ne peut plus clair !» s'est alors exclamée ma femme. « C'est une découverte merveilleuse. Je dois me dépêcher pour l'annoncer à mon mari. Je sais qu'il sera ravi. » Et M. Armstrong de poursuivre. Peu après, ma femme entrait en courant dans la maison de mes parents, impatiente de m'annoncer la bonne nouvelle. Ma mâchoire est tombée. Elle n'aurait pas pu m'annoncer une pire nouvelle. Voilà que ma femme tombait dans un fanatisme religieux. « Es-tu devenue folle ?» lui ai-je alors demandé. J'étais consterné. Bon, je n'en lirai pas davantage, mais j'ajouterai que c'était là le début de la conversion de M. Armstrong. Précisons encore que Mme Armstrong était à ce moment-là entrée en contact avec l'Église de Dieu du septième jour. Tournons-nous à présent vers le livre de l'Apocalypse, où se trouve quelque chose que M. Armstrong n'avait pas encore compris à l'époque. En fait, quelque chose que nous n'avons compris que rétrospectivement, à savoir qu'il était alors entré en contact avec une Église qui était en train d'imploser en raison de la forme démocratique du gouvernement qu'elle avait adopté, ses membres nommant et engageant leurs dirigeants. À cause de cela, et pour d'autres raisons aussi, cette Église commençait à se diviser. Il s'était groupé en une conférence située à Salem, en Virginie occidentale. À une certaine époque, Stanbury, dans le Missouri, était leur siège social. Je suis allé à Stanbury. J'y ai vu ce vieux bâtiment, au coin d'une rue, où ils se réunissaient. Ce n'était pas très impressionnant. J'ai aussi rencontré le ministre qui se trouvait là quand j'étais à Kansas City. Vous lisez à propos de ces choses du passé, et voilà qu'un jour, il vous est donné de passer par là, et cela vous rappelle ce dont M. Armstrong parlait. En fait, ce dont il parlait concernait une église qui était loin d'être dynamique. Soit dit en passant, M. Lambert Greer a grandi dans cette région, et il a connu certaines de ces personnes qui y habitaient, et il pourrait probablement dire beaucoup de choses à propos de cette époque pendant laquelle M. Armstrong a vécu en Oregon. Dans Apocalypse chapitre 3, nous lisons, Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Cette ère de l'église s'éteignait donc. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Il y a donc des choses qui sont restées parmi les vérités doctrinales qu'elle avait. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Notez que le verset 3 commence par « rappelle-toi ». Oui, rappelez-vous donc ce que vous avez reçu et entendu. Tenez bon et repentez-vous. Dieu veut donc que nous nous souvenions de ce que c'était lorsque nous sommes sortis de ce monde pour la première fois et que nous avons appris la vérité. Quel a été le moment de réveil pour vous et qu'avez-vous appris à ce moment-là? Vous savez, l'histoire de l'Église de Dieu a plutôt été mouvementée. Et il est arrivé bien des fois qu'à genoux et durant ma prière, je fasse un retour en arrière pour dire « Dieu, comment est-ce possible que je sois encore là, moi qui suis si imparfait ?» Alors je me tourne immanquablement vers ces trois piliers sur lesquels j'ai coutume de m'appuyer. Premier pilier, Dieu existe-t-il ? Je sais évidemment que Dieu existe, et je me le suis prouvé à moi-même de mille façons différentes. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne crois pas à l'évolution, vous savez, à la macro-évolution comme ils l'appellent. Je ne crois pas que la vie est issue du non-vivant. Je ne crois pas non plus que cet univers soit le fruit d'un hasard aveugle. Il a dû y avoir un commencement. Les scientifiques le savent, et ils peuvent remonter très loin dans le temps. Ils vont parler du Big Bang, de cet instant où l'expansion cosmique a débuté. Ils peuvent remonter le temps et l'observer, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Qu'y avait-il avant? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Peu importe ce que c'était, comment est-ce arrivé? Deuxième pilier, la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Pour en être convaincu, vous n'avez qu'à considérer les prophéties qui se sont réalisées et qui continuent de s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui, des prophéties qui ne sont pas difficiles à comprendre, même presque évidentes de nos jours, à savoir que l'homme, s'il était laissé à lui-même, détruirait un jour toute vie sur la terre. Cela n'aurait pas pu se produire, ou même être envisagé un siècle auparavant. Effectivement, tout au long de l'histoire de l'homme, et particulièrement depuis l'époque où cette prophétie a été donnée, il y a maintenant près de 2000 ans, il n'était pas possible pour l'homme de détruire toute vie sur cette planète. Mais Christ a dit que nous y arriverions. Certes, nous ne sommes pas encore rendus là, mais nous avons à présent certainement les moyens de le faire. Pensez juste aux armes nucléaires, chimiques et biologiques dont nous disposons. Cela suffirait amplement pour détruire toute vie sur cette planète. Troisième pilier. La Bible nous parle de ces armées qui vont encercler Jérusalem, telles que mentionnées dans Zacharie chapitre 14. Elle dit que Dieu va assembler toutes les nations contre les Juifs et Jérusalem. Or, les Juifs n'ont pas toujours été en charge de Jérusalem. En effet, c'est seulement après 1948 que les Juifs ont pu revenir en Israël, et ce n'est qu'après 1967 qu'ils ont occupé tout Jérusalem. Ce sont là toutes des choses qui ne peuvent être réfutées. Pour en revenir à l'ère de Sardes, dont nous parlions précédemment, celle que M. Armstrong avait contactée à un moment donné, au début, celle-ci touchait à sa fin, bien qu'elle pourrait bien encore exister jusqu'au retour de Christ. Car, n'est-il pas dit au verset 4, Apocalypse 3, verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Je me souviens d'avoir parlé avec le pasteur de Stanbury. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il faisait usage de jus de raisin au lieu de vin lors de la Pâque. Il disait que c'était tout autant le fruit de la vigne. C'est ainsi qu'il voyait les choses. Puis, nous lui avons demandé « Qu'en sera-t-il de ces gens qui n'ont jamais entendu le nom du Christ ? Que va-t-il leur arriver ?» Et il nous a regardé avec un grand sourire, disant qu'il ne connaissait pas la réponse à cela, que cela revenait à Dieu d'en décider. J'ai peut-être manqué de tact à son égard lorsque je lui ai mentionné que c'était bizarre, mais que, pour ma part, je suis persuadé que les Écritures ne nous laissent pas dans l'incertitude à ce sujet. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux n'observent pas les jours saints, bien que certains le fassent apparemment. Ils ne comprennent pas bien les choses, ce qui ne doit pas étonner vu l'attitude désinvolte qu'ils manifestent. M. Armstrong était arrivé en scène alors que tout cela se passait. Faut dire qu'à cette même époque, il y avait encore beaucoup de gens très sincères. Oh, ils n'étaient peut-être pas très emballés à l'idée de prêcher l'Évangile, mais c'étaient des gens sympathiques et plusieurs obéissaient à Dieu autant qu'ils le comprenaient à leur époque. Ainsi, ils observaient le sabbat, et certains d'entre eux observaient aussi les jours saints. Ils comprenaient les lois sur les viandes pures et impures, ils pratiquaient la dîme, et un certain nombre d'autres points de doctrine qu'ils comprenaient. Toujours dans son autobiographie, cette fois la page 303, M. Armstrong parle des difficultés que lui causa l'observance du sabbat. En commençant au bas de la page 303, puis en passant à la page suivante, dans la section consacrée au thème « Loi et grâce », il dit « J'ai étudié soigneusement tout ce que je pouvais trouver pour me permettre de réfuter le commandement à propos du sabbat. Je voulais plus que tout au monde prouver que dimanche, le jour du Seigneur, est le véritable sabbat chrétien. J'ai aussi étudié tous les arguments sur la loi ou la grâce. On m'avait conseillé de lire une de leurs brochures dans laquelle il est dit à propos de Romains 3, verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Je l'ai fait, mais j'ai noté en lisant ce même verset dans la Bible que celle-ci ajoute « Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et c'est vrai, le péché est la transgression de la loi. Ce n'est donc pas la conscience de l'homme ou les interdits de l'Église qui définissent ce qu'est le péché. Non, la connaissance du péché vient de la loi. Et M. Armstrong d'ajouter « J'ai aussi remarqué que leur pamphlet avait omis de citer Romains 3, verset 31, qui dit « Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Autrement dit, Il ne saurait être question de grâce s'il n'y a pas de loi, parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de péché. Or, s'il n'y a pas de péché, de quoi devrions-nous nous repentir? Cela doit donc nous amener à conclure que la loi est toujours en vigueur maintenant. M. Armstrong poursuit ensuite disant, « J'ai lu dans leur brochure, la loi produit la colère. » C'est dans Romains 4, verset 15. « Je me suis alors tourné vers ma Bible et j'ai lu le reste de ce verset, où il est dit, « Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Bien sûr, parce que c'est la loi qui définit ce qu'est le péché. J'ai même lu dans une autre de leurs brochures que la loi est une chose mauvaise, contraire à nos intérêts. Pourtant, Romains chapitre 7, verset 7, ne dit-il pas, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'avait dit, « Tu ne convoiteras point. » Au verset 12, nous lisons, « La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Quant au verset 14, il ajoute, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » M. Armstrong continue disant, « J'ai appris que la grâce est le pardon que nous obtenons grâce au sang versé par Christ suite à notre transgression de la loi. Mais si un juge humain pardonne à un homme d'avoir enfreint une loi, qu'elle soit civile ou criminelle, ce pardon n'abroge pas pour autant cette loi. L'homme est gracié dans le but de l'encourager à observer cette loi à l'avenir. Et Dieu ne pardonne qu'après que nous nous soyons repentis de notre péché. » Et M. Armstrong d'avouer, « N'allez pas vous imaginer qu'il m'a alors été facile d'admettre que ma femme avait raison, ou qu'il m'a été facile d'accepter le sabbat du septième jour comme une vérité biblique. » Je me souviens de M. Armstrong à Orr, au Minnesota, en 1983. Nous étions alors assis, plusieurs d'entre nous, dans une petite cabane, et il avait parlé pendant environ 3 heures. Nous lui avions posé quelques questions, mais la plupart du temps, il ne faisait que parler de choses et d'autres. Et il nous avait alors confié à quel point il est difficile d'admettre que notre femme a raison, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi épineux que le vrai sabbat. Il ne pouvait être question de lui céder sur ce point. Il avait ajouté, « J'ai alors passé 6 mois à étudier et à faire des recherches jour et nuit, 7 jours sur 7, tout cela dans un effort déterminé pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai cherché en vain une quelconque preuve biblique pour valider dimanche en tant que jour de culte chrétien. J'ai même suffisamment étudié le grec pour pouvoir trouver tous les textes douteux possibles dans le grec original. J'ai étudié les commentaires bibliques, j'ai étudié les lexiques, ainsi que la grammaire du Nouveau Testament grec de Robertson. Puis j'ai étudié l'histoire, je me suis plongé dans les encyclopédies, la Britannica, l'Americana, de même que plusieurs encyclopédies religieuses. J'ai fouillé dans l'encyclopédie juive et l'encyclopédie catholique. J'ai lu le « Déclin et la chute de l'Empire romain » de Gibbon, en particulier son chapitre 15, qui traite de l'histoire religieuse des 400 premières années après le Christ. Finalement, j'ai trouvé l'une des preuves les plus convaincantes contre le dimanche, en étudiant l'histoire du comment et du quand tout cela a commencé. Je n'ai négligé aucune piste. J'ai trouvé toutes sortes d'arguments astucieux. J'avoue que, poussé par le désir de renverser la croyance au sabbat de ma femme, j'ai été tenté, à un moment donné de cette étude intensive, d'utiliser de tels arguments pour confondre et contrarier ma femme sur cette question du sabbat. Mais j'y ai finalement renoncé, car je savais que ces arguments n'étaient pas honnêtes. Je ne pouvais tout de même pas délibérément tromper ma femme avec des arguments malhonnêtes. Cette pensée a donc immédiatement été écartée. Je savais maintenant qu'elle n'avait pas pu être trompée. Et c'est ainsi que, 6 mois plus tard, la vérité s'était imposée à moi, claire comme de l'eau de roche. Enfin, je connaissais la vérité à ce sujet. Dieu m'avait une fois de plus ouvert les yeux. Nous devons comprendre que Dieu opérait alors la transition entre l'ère de Sardes et une ère toute nouvelle. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David », la clé de David fait ici allusion à un gouvernement, pas à l'identité d'Israël, mais à l'autorité de son gouvernement. En effet, si vous vous rendez à Ésaïe chapitre 22, au verset 22, que voyez-vous écrit ? « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Mais retournons à Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, notez-le, peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il est intéressant de noter ce que William Ramsay mentionne dans son livre intitulé « Lettres aux sept églises », les sept églises de l'Apocalypse. Dans ces lettres que nous lisons ici, Ramsay appelle l'église de Philadelphie la ville missionnaire ou l'église missionnaire. Et il souligne que si toutes ces églises ont eu des occasions de répandre l'évangile, c'est l'église de Philadelphie qui le fait avec enthousiasme, en mettant vraiment son cœur à l'ouvrage. Ainsi, lorsqu'on considère les portes que Dieu nous a ouvertes, nous avons la radio, la télévision, nos publications, Internet et j'en passe. Ce sont là des outils qu'aucune autre ère de l'Église n'a pu utiliser dans le passé. Et puis, il y a bien sûr aussi l'Église laodicéenne, ou devrais-je dire l'attitude laodicéenne, qui prévaut en ces temps de la fin. Et il faut espérer que l'Église du Dieu vivant n'en est pas trop marquée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a maintenant une multitude de groupes qui s'affichent en tant qu'Église de Dieu. Et beaucoup de ces groupes ont conservé un nombre plus ou moins grand de ces doctrines qui nous ont été transmises par M. Armstrong. Je ne veux pas dire qu'aucun de leurs membres n'a le Saint-Esprit, mais il est un fait que très peu de ces groupes montrent le zèle pour accomplir l'œuvre de Dieu qui existait du temps de M. Armstrong et, plus tard, du temps de Dr. Meredith. Ils vont peut-être toujours observer le sabbat et les jours saints, mais pour ce qui est d'accomplir l'œuvre de Dieu en général, et particulièrement la prédication de l'Évangile, on ne peut en dire autant. En 1931, M. Armstrong a été ordonné ministre par l'Église de Dieu du septième jour. C'était son nom, et l'Église de Dieu du septième jour existe encore aujourd'hui sous diverses formes. À cette époque, ils avaient formé la conférence de l'Oregon, décision motivée principalement par une question d'argent et de qui était en charge, comme c'est souvent le cas. Ce groupe s'était donc séparé de celui de Stanbury au Missouri, et c'est lui qui avait ordonné M. Armstrong. Il est vrai que M. Armstrong n'a jamais vraiment eu le sentiment d'en faire partie, mais dans une certaine mesure, c'était vrai. Il a donc été ordonné par eux en 1931. Puis, le 9 octobre 1933, M. Armstrong s'était présenté devant une station de radio de 100 watts qui offrait un temps d'antenne gratuit à toute personne qui acceptait de se lever tôt le dimanche pour faire une émission de 15 minutes, de 7h45 à 8h du matin. Mais ce n'est que l'année suivante, le premier dimanche de 1934, que son temps d'antenne est passé à une demi-heure et qu'il a débuté ce qu'on a appelé la Radio Church of God. C'est vraiment là que tout a commencé, la première semaine de janvier 1934. Quant à la revue Plain Truth, la pure vérité, elle est sortie le mois suivant et, comme le disait M. Armstrong, c'est à peine si on pouvait appeler cela une revue. Il ne s'agissait à l'époque que de quelques feuilles ronéotypées, pas vraiment très professionnelles. En février 1934, l'article principal portait le titre « Un dictateur mondial est-il sur le point d'apparaître ?» Plutôt intéressant. C'était juste quelques années avant qu'Adolf Hitler et Mussolini ne déclenchent une autre restauration de l'Empire romain. M. Armstrong ne comprenait pas alors qu'il y en aurait encore une dernière avant la fin de l'âge. À la même époque, M. et Mme Armstrong ont commencé à observer les fêtes de Dieu. D'après ce que je comprends, ils ont fait cela pendant 7 ans, sans que personne ne se joigne à eux. Il faut aussi préciser que, durant tout ce temps, ils n'en comprenaient même pas la signification. Pour nous, nous prenons cela pour acquis. Ainsi, nous allons nous tourner vers les Écritures pour voir que le levain est un type de péché. Nous irons au Nouveau Testament pour voir ce qui caractérisera les 7 trompettes, et en particulier les 7 fléaux qui accompagneront la 7e. Quant au jour des expiations, il en est question notamment dans Apocalypse chapitre 20. Nous pouvons comprendre toutes ces choses aujourd'hui parce que Dieu nous les a révélées par l'intermédiaire de M. Armstrong. Ces choses n'étaient pas comprises durant l'ère de Sardes. M. Armstrong a donc dû les apprendre et souvent une doctrine à la fois. Cela dit, certaines des doctrines que nous avons de nos jours étaient comprises par l'Église de Dieu du septième jour, mais beaucoup ne l'étaient pas. Il est un fait que nous prenons beaucoup de choses pour acquises aujourd'hui. L'Ambassador College a ouvert en 1947, et son but premier était de procurer des ouvriers pour la moisson à venir. C'est qu'à cette époque, M. Armstrong diffusait sur un certain nombre de stations de radio, Il prêchait tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Je suis venu à l'église au début des années 60, et on m'a alors raconté qu'après 1947, vous pouviez conduire à travers les États-Unis ou à travers le Canada, et la nuit, si vous disposiez d'une radio, vous ne pouviez pas manquer ces voix, celles de M. Herbert Armstrong et de son fils Garner Ted. D'ailleurs, parmi nos auditeurs les plus fidèles, il y avait beaucoup de camionneurs qui sont connus pour rouler la nuit. Il leur suffisait de syntoniser une des stations qui diffusait nos émissions, et voilà qu'ils entendaient celle-ci. En fait, s'ils connaissaient les différentes longueurs d'onde sur lesquelles nous diffusions, ils pouvaient même nous entendre plusieurs fois durant une même nuit. Encore une fois, au début, M. et Mme Armstrong avaient commencé à observer les jours saints par eux-mêmes. Puis, en 1947, M. Armstrong a lancé l'Ambassador College, dont les débuts lui causèrent beaucoup de stress. Quand je suis venu à l'Ambassador College en 1965, la Pure Vérité comptait déjà près de 635 000 abonnés, ce qui n'est pas très différent de ce que nous avons aujourd'hui, soit environ 600 000, plus ou moins quelques milliers si l'on tient compte des fluctuations parmi notre liste d'abonnés. Par contre, nous n'avons pas de nos jours la couverture radio que M. Armstrong avait. Et nous le savons, la radio n'est vraiment efficace que si vous pouvez l'offrir au moins 5, préférablement 7 fois par semaine. Pour ce qui est de nos émissions télévisées, c'est différent. Elles auront beaucoup plus d'impact si elles sont diffusées une fois par semaine. La radio aurait toujours un impact, j'en suis sûr. Mais il faudra avoir quelqu'un qui puisse gérer ce projet. Or, pour le moment, nous n'avons personne pour cela. Mais, comme vous le savez, nous passons aujourd'hui à la télévision. D'ailleurs, même M. Armstrong passait à la télévision lorsque je fréquentais l'Ambassador College. Il avait déjà essayé dans les années 50, mais il n'était jamais à l'aise, déjà parce qu'il devait chaque fois se rendre à Hollywood pour enregistrer. Mais plus tard, nous avions une bonne présence à la télévision. En 1968, la Radio Church of God est devenue la Worldwide Church of God. Certes, au début, son appellation de Radio Church of God était justifiée, car M. Armstrong, lorsqu'il a commencé, n'était présent qu'à la radio. Nous savions que le terme « Église de Dieu » était approprié, mais pour nous distinguer des autres groupes religieux, nous devions lui donner le nom de « Radio Church of God ». Mais, à partir de 1968, les dirigeants de l'Église ont décidé que nous étions à présent une Église d'envergure mondiale. Et comme, en outre, nous avions aussi une présence à la télévision, notre nom a changé en « Worldwide Church of God ». L'Église universelle. Cela dit, et je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais je sais aussi que beaucoup ne le savent pas, et il serait peut-être indiqué de vous montrer une fois une vidéo à ce sujet, sachez que M. Herbert Armstrong a été invité à un moment donné par le roi Léopold de Belgique. C'est parce que l'un de nos membres en Allemagne, un photographe, entretenait des relations avec le roi Léopold, et un beau jour, il eut l'occasion de lui montrer un Envoy, un album de luxe publié chaque année par l'Église, qui montrait non seulement les étudiants de l'Ambassador College et le corps professoral, mais également les bâtiments du collège, ainsi que les terrains magnifiquement entretenus qui les entouraient. Quand le roi Léopold a vu nos campus, il a spontanément exprimé le désir de rencontrer l'homme qui était en arrière de tant de beauté. Nous avions alors 3 collèges, un au Texas, à Big Sandy, un en Angleterre, à Brickwood, et un en Californie, à Pasadena. Bien sûr, M. Armstrong serait le premier à vous dire qu'il n'y était pour rien, que c'était en fait Dieu qui l'avait accompli à travers lui. Et plus il avançait en âge, et plus il s'insurgeait lorsqu'on cherchait à lui accorder le crédit de telles réalisations. D'ailleurs, comme il l'a souligné à maintes reprises, il n'avait pas initialement planifié beaucoup de ces choses, même si l'homme d'affaires qu'il était au début avait le sens de la planification. Non, c'était Dieu qui faisait ces choses par son intermédiaire. Ainsi, au cours de sa longue vie, M. Armstrong a rendu visite à des rois, de même qu'à des empereurs, l'empereur Hirohito du Japon et l'empereur Haile Selassie d'Éthiopie, les seuls empereurs encore en vie à l'époque. On l'a déjà dit, il a rencontré le roi Léopold de Belgique, mais aussi le roi Hussein de Jordanie. M. Armstrong avait également de bons rapports avec le roi Bhumibol de Thaïlande et son épouse, la reine Sirikit. Au fil du temps, alors qu'il rencontrait toutes ces personnalités de marque, M. Armstrong ne manquait pas une occasion de leur parler de ces deux arbres, même s'il leur présentait cela plutôt sous l'angle de deux façons de vivre. La voie qui consiste à prendre, par opposition à celle qui consiste à donner. Il ne faisait donc pas usage de termes bibliques, mais s'exprimait en termes qu'il pouvait comprendre. Il était très respectueux envers ces personnalités, et il l'écoutait lorsqu'il leur parlait. Hélas, durant ses fréquentes absences, des problèmes avaient surgi à la maison, et c'est alors que le nom de Meredith est apparu dans son autobiographie. Le fait est que son fils Garneted n'avait pas le même caractère que M. Herbert Armstrong. En conséquence, il y eut des gens qui sont devenus désillusionnés, en colère même, et cela aboutit à une rébellion qui a eu lieu en 1974. Les années 70 ont été une période turbulente dans l'Église. M. Armstrong s'est rendu à l'évidence qu'il s'était trompé sur quelques points de doctrine. L'un concernait le jour où l'on devait célébrer la Pentecôte, l'autre avait rapport avec le divorce et le remariage. M. Armstrong s'est alors empressé de corriger la situation, et ce n'est pas en faisant appel à un vote. Il a tout simplement changé ses doctrines. Mais d'autres problèmes surgirent par la suite. Ainsi, durant les années 70, nous avons connu une rébellion sur la côte est des États-Unis. Elle provenait principalement des membres du ministère de l'endroit. Cela nous a fait perdre environ 3000 membres et une trentaine de ministres. À l'époque, l'Église avait environ 155 000 membres qui observaient la fête des tabernacles. À peu près à la même époque, ou peu après, le Plain Truth, la pure vérité, était publié mensuellement à au moins 8 millions d'exemplaires et envoyé soit directement à nos abonnés ou à l'aide de présentoirs dans des kiosques et d'autres lieux publics. Suite à la mort de M. Armstrong, en 1986, il y eut nombre de changements dans l'Église. Ceci avait en fait déjà commencé en 1974, et ils n'ont cessé de se poursuivre durant le reste de la décennie. Cela consistait en une dilution des pratiques et enseignements. Et en 1978, voilà que M. Armstrong faisait une crise cardiaque. Il a alors imploré Dieu de le remettre d'aplomb, afin de pouvoir redresser la situation dans cette Église qui s'égarait de plus en plus. Et c'est ainsi que, de 1979 à 1986, soit durant 8 années, Dieu lui a accordé la capacité de remettre l'Église sur les rails, car elle s'était vraiment éloignée de la vérité dans plusieurs domaines. Hélas, sitôt après sa mort, les individus qui avaient causé tant de tort à l'Église sont revenus à la charge. Ils ont alors pris le contrôle des opérations en procédant à des changements systématiques et de plus en plus rapides de toutes nos doctrines antérieures. Cela a commencé avec la doctrine sur la guérison qu'ils ont complètement réfutée à bien des égards. Un autre point qui connut des changements fut le concept de naître de nouveau. Puis, en 1993, ils publièrent une brochure intitulée « Dieu est-il une trinité ?» Ils avaient beau y dire qu'ils ne défendaient pas à présent ce concept d'une trinité, en réalité, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils insistaient sur le fait qu'ils ne cherchaient qu'à l'expliquer un peu différemment, dans le but de satisfaire un auditoire plus sophistiqué, notamment certains théologiens et érudits de ce monde qui pourraient étudier ce que nous disons. Suite à cela, fin 1992, début 1993, Dr. Meredith, M. Carl McNair, M. Don Davis, M. David Crockett, Dr. Jeffrey Fall, et peu après M. John Gwynn, M. Fannin, M. Jim Meredith, M. Rod McNair et M. Jonathan McNair, et leurs épouses respectives, ainsi que d'autres ministres et membres fidèles, ont quitté la Worldwide Church of God, l'Église universelle, pour finalement rejoindre Dr. Meredith et relancer l'œuvre de Dieu. Les uns après les autres, ils ont vu clair. Certains qui bénéficiaient de plus d'informations que d'autres ont agi plus vite. Mais, à un moment donné, il était évident pour eux tous que les choses tournaient au vinaigre. Ces hommes fidèles et leurs épouses, de même que de nombreux autres ministres et épouses fidèles, ont reconnu que l'Église avait totalement déraillé. Le 17 décembre 1994, le pasteur général de l'époque, M. Joseph Tkach, s'était rendu à Atlanta pour tenter de calmer un peu la situation, car le ministre de l'endroit avait même l'intention de devancer l'agenda de l'Église. Certes, on voulait dès lors changer l'Église, la transformer, en fait, la ramener au protestantisme. Mais on voulait le faire d'une manière subtile, graduellement, afin de ne pas perdre trop de membres. Non content de cela, le pasteur d'Atlanta avait brusqué les choses en vendant la mèche prématurément. Et c'est pourquoi le 17 décembre 1994, Monsieur Joseph Tkach s'était rendu sur place, à Atlanta, pour donner un sermon sur la nouvelle alliance et sur la manière dont elle nous affecte. Entre parenthèses, nous sommes effectivement sous la nouvelle alliance, mais la manière dont M. Joseph Tkach l'avait présentée était trompeuse, et les conséquences ne se firent pas attendre. Précisons que M. Tkach est mort 40 semaines plus tard, jour pour jour. Pour ce qui est de la transcription de son discours, elle parut dans le rapport du pasteur général. J'étais à Big Sandy à ce moment-là, et j'avais reçu la veille les grandes lignes de ce que M. Tkach allait dire à Atlanta le 17 décembre. Nous nous attendions donc à quelque chose de spécial. Je crois que Dr. Douglas Winnell était également présent à ce moment-là, et peut-être que certains d'entre vous l'étaient aussi. Le sabbat suivant, le 24 décembre 1994, donc il y a maintenant 28 ans, jour pour jour, M. Tkach a donné ce sermon de 3 heures où il a dit entre autres qu'il était permis de jouer au golf le jour du sabbat, qu'on pouvait travailler le jour du sabbat si cela était nécessaire pour pouvoir nourrir notre famille, que nous étions après tout sous la nouvelle alliance. Il a encore dit beaucoup de choses surprenantes de ce genre. Je me souviens que ce soir-là, après le sermon, nous étions réunis plusieurs d'entre nous. Dr. He était là, lui aussi, et je me souviens d'une remarque qu'il fit. Il disait qu'on ne peut pas faire d'exception s'il n'y a pas de règles. Autrement dit, on ne parlera pas d'une situation où vous avez un bœuf dans le fossé, à moins d'avoir une règle interdisant le travail ce jour-là, le jour du sabbat. J'avais trouvé le commentaire intéressant. Ces changements qui se produisaient alors n'étaient pas mineurs, et si j'en parle, ce n'est pas sans raison. C'est qu'il y a quelques années, 3 ans environ, certaines personnes survoltées s'étaient mises à répandre la rumeur selon laquelle Weston s'apprêtait maintenant à nous ramener sur les traces de la Worldwide Church of God, lorsqu'elle avait sombré dans l'apostasie. La controverse était centrée sur le port ou non de masques. Les partisans du pour se faisaient accuser de nous entraîner alors vers une nouvelle apostasie. Franchement, c'était ridicule, surtout lorsqu'on considère que certains de ces agitateurs étaient des jeunes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé dans notre ancienne association, la Worldwide Church of God. Voyez-vous, ce qui s'était passé dans l'Église universelle, la Worldwide Church of God, n'était pas en réaction à une situation dans le monde à laquelle nous n'avions jamais été confrontés auparavant et dont nous devions nous dégager. Non, il s'agissait ici d'un effort concerté et délibéré de la part de certains pour nous éloigner du sabbat, des jours saints et de notre vision de la nature de Dieu, cette dernière étant alors remplacée par le concept d'une trinité. On s'efforçait pareillement de réfuter notre croyance à propos de l'identité d'Israël. Les 10 tribus perdues, et en particulier Éphraïm et Manassé, ce qui nous concerne directement. ainsi que notre croyance à propos de l'identité de la Syrie. La définition du péché a aussi été changée, de même que celle du véritable évangile. Tout ce en quoi nous croyons, nous qui sommes ici, avait fait l'objet d'une attaque en règle. L'énoncé actuel de nos croyances fondamentales reflète grosso modo les enseignements de l'Église universelle du temps de M. Armstrong. Certes, nous avons introduit quelques changements, mais ce sont plutôt des ajustements très très mineurs, ici et là. Par exemple, il y a quelques prophéties que nous croyons comprendre un peu mieux de nos jours. Parfois, nous n'en sommes pas si sûrs. Et il est un fait que l'issue des événements peut parfois être source de confusion. Cependant, à mesure que la fin approche, les choses se précisent. Si l'énoncé de nos croyances fondamentales vous semble quelque peu différent, c'est peut-être aussi parce que l'Église ne l'avait jamais formulé de cette façon. L'Église universelle du temps de M. Armstrong disposait d'une grande quantité de publications, de sorte que personne ne pouvait déclarer être ignorant au sujet de ce qu'elle enseignait. Hélas, il fut un temps, après la mort de M. Armstrong, où tout cela fut graduellement rejeté. Au début de 1995, d'autres ministres se sont joints à nous pour relancer l'œuvre, notamment Dr. Douglas Winnell, M. Lambert Greer et M. Rand Millage. À Kansas City, où j'étais à l'époque, j'ai donné mon dernier sermon le 11 mars 1995. Nous savions pertinemment que nos jours dans cette organisation étaient comptés, parce que nous ne croyons pas ce qu'ils enseignaient maintenant. Nous ne savions pas quoi faire. D'ailleurs, même après avoir donné ce dernier sermon, je ne savais toujours pas exactement ce que j'allais faire, sinon que je n'allais pas fonder ma propre église. Avec moi, il y a eu M. James Wells et M. David Burson, ainsi que leurs épouses. Nous avions aussi un autre ancien et sa femme, et tous, nous avions reconnu que l'Église n'était plus sur la bonne voie et que nous ne pouvions pas continuer comme ça. J'ai finalement réalisé que si je me faisais virer, ce ne serait pas si grave, et j'ai alors préparé un sermon où j'évoquais tous ces changements qu'on voulait nous imposer, et nous ne parlons pas ici de changements mineurs. En effet, il s'agissait du sabbat, des jours saints, de la loi, de la nature de Dieu, des choses essentielles, le cœur et le noyau de ce que nous enseignons. Et j'ai même souligné ce que M. Tekach disait, à savoir que vous pouviez même à présent manger un sandwich au jambon le jour des expiations, ce qui revenait à ne plus faire de distinction entre viande pure et impure. J'ai donc donné ce sermon, un sermon qui comportait trois points. Après avoir exposé tous les changements qui étaient annoncés, j'avais posé trois questions. Pourquoi des changements aussi massifs? Où cela va-t-il mener? Et que devrions-nous faire? Le pourquoi est évident. C'était une hostilité envers M. Herbert Armstrong et tout ce qu'il nous avait enseigné. Où cela va-t-il mener? Directement vers le protestantisme. Et que devrions-nous faire? Nous ne devrions jamais quitter la vérité. Après avoir fini, j'ai eu l'impression d'avoir déclenché une bombe. Quand je me rassis, j'étais en état de choc. D'autres ministres se sont comportés de façon similaire. Dr. Winnell a manifesté son opposition à Big Sandy. De même, en ce qui concerne M. Millage, M. Greer, et je suis sûr que j'en oublie. M. Ames, quant à lui, nous a rejoints peu de temps après, et l'Église s'est mise à grandir. Simultanément, la majorité des individus qui étaient dans l'Église universelle semblaient déjà avoir oublié les choses du passé. La deuxième épître de Pierre parle d'eux au chapitre 2. Il faut cependant ajouter que certains d'entre eux se sont repentis et nous sont revenus. C'était certes une période très confuse. Certains d'entre eux, peut-être vous, se sont peut-être égarés pendant un certain temps, mais l'Esprit de Dieu en eux ne les a heureusement pas abandonnés pour autant. Je parlais tantôt de 2 Pierre chapitre 2. Allons-y brièvement. Parlons de ceux qui causaient cet égarement. Il y est dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 19, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Église universelle. On promettait aux membres la liberté. « Nous sommes libres maintenant, disaient-ils. Nous n'avons plus à faire toutes ces choses. Vous n'avez plus à prier chaque jour. Vous n'avez plus à étudier chaque jour. » Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit en ces termes. Mais c'est certainement le message qui a été transmis aux gens. En lisant un article la semaine dernière, j'ai appris quelque chose d'intéressant, à savoir qu'au moins un tiers des ministres de ce monde n'ont pas de routine de prière et d'étude dans leur vie. Je me pose alors la question, si les ministres ne le font pas, qu'en est-il de leurs membres? Revenons à 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, versets 18 et 19. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. L'Église mondiale de Dieu, la Global Church of God, a connu une certaine croissance. Mais il est choquant de constater à quelle vitesse ses membres ont oublié d'où ils étaient sortis, à savoir des hérésies de l'Église universelle, pour se mettre à convoiter des postes de commande dans la nouvelle organisation. Comme mentionné dans la vidéo, ils ont vite décidé de prendre le contrôle de cette Église. Et c'est pourquoi Dr. Meredith et 80% du ministère, ainsi que 80% des membres, ont dû créer l'Église du Dieu vivant et repartir à zéro. Quant au petit nombre qui restait dans l'Église mondiale, ils se sont dispersés dans de nombreuses directions différentes. La Bible nous donne pourtant beaucoup d'avertissements, notamment dans le Deutéronome. Voyons-le. Deutéronome, chapitre 8, verset 11. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. » Verset 14. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Notez la mise en garde répétée contre l'oubli. Verset 19. « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Allons aussi à Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 10. « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. » Puis verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, » autrement dit, quand Dieu nous aura bénis de tant de manières, « garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » L'histoire de l'Église de Dieu a été mouvementée, et ce n'est pas un phénomène récent. Cela ne s'applique pas uniquement aux 100 dernières années. Cela a été ainsi tout au long de l'histoire. C'est pourquoi Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elles. C'était une indication pour nous, afin que nous sachions que notre histoire serait turbulente. En parcourant l'histoire de l'Église, vous voyez bien que c'est le cas. Il fut un temps où l'Église était entrée dans une apostasie totale, un temps où des apostats se sont emparés du nom de Christ, un temps où les membres de la véritable Église ont été considérés comme des hérétiques. Tout cela parce qu'il y a un diable bien réel qui essaie de la détruire. Mais, heureusement, Dieu a promis que la vérité subsisterait et qu'il y aurait toujours un groupe de personnes qui resterait attaché à la vérité. Cela ne dépend ni de M. Herbert Armstrong, ni de Dr. Meredith, ni de moi, bien que Dieu ait clairement utilisé M. Armstrong d'une manière si remarquable que cela ne peut être comparé à ce que Dr. Meredith ou moi-même allions pouvoir faire. Dr. Meredith a fait ce que vraiment lui seul pouvait faire, à savoir relancer l'œuvre de Dieu. Soyons donc reconnaissants pour cela. Ne l'oublions pas. Nous souvenir de par où nous sommes passés et nous rappeler pourquoi nous sommes ici est essentiel à notre stabilité. Je conclurai donc par ces mots. Souvenez-vous. N'oubliez pas.